On va commencer notre cours de Hanouka. On est aujourd'hui le lundi de Hanouka, qui est dédié à Charlotte bat Colette, Eliora Rebecca bat Rachel, Avraham ben Sultana, et bien sûr à la mémoire de Monsieur et de Madame Cain. Avant de commencer le cours, je veux juste faire une petite rectification, puisque notre vedette de Cherbourg est là. Il n'était pas là il y a 15 jours quand j'ai fait le cours. On ne dit pas son nom, on ne le photographie pas, on ne sait jamais, hein, quand même. Voilà. Donc, il reste dans l'anonymat. J'avais fait une erreur quand j'ai dit qu'il avait été contacté par le Mossad qui voulait récupérer l'embargo, donc les vedettes de Cherbourg. Il était officier à ce moment-là, il gardait donc le port de Cherbourg. Et j'ai fait donc une erreur, il me l'a rectifié ce matin, j'ai dit que le Mossad l'avait contacté, il m'a dit mais pas du tout, pas du tout. Le Mossad faisait tout de sa propre initiative, c'est lui qui a décidé d'aider le Mossad quand il a senti que les choses peut-être ne tourneraient pas aussi bien que prévu. Il s'est arrangé pour être de garde ce soir-là, c'était le soir de Noël, c'est ça? C'est donc bientôt, après-demain, l'anniversaire de votre gloire. Et c'est lui qui a décidé donc d'aider le Mossad par sa propre initiative. Et c'est comme ça que Israël a pu récupérer les vedettes qu'on lui avait volées, puisqu'elles avaient été payées, et que Israël, grâce à lui, entre autres, a pu récupérer, donc voilà. À cette époque-là, il était loin, 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 loin d'imaginer le cadeau que Hachem lui ferait un jour pour le récompenser, mais là, c'est vraiment... Regardez le cadeau, un officier français qui se retrouve des années après à Jérusalem.
Excusez-moi.
Le vrai cadeau, c'est effectivement son épouse. C'est beaucoup plus important que tout le reste. Parce qu'il n'y a pas plus grand cadeau sur terre qu'une épouse comme la sienne. C'est comme toutes les belles épouses. Comment ?
C'est elle la vedette.
Voilà, c'est elle la vedette. Voilà. Et donc, oui.
Vous savez qui a voulu bombarder les vedettes quand elles sont parties ? Oui. Un ministre juif.
Un ministre juif ?
C'était Debré.
C'était un sale juif. Donc. Un vrai sale juif. En tous les cas. Non, mais ça fait longtemps que la famille Debré n'est plus juive. Ils se sont convertis au catholicisme depuis fort longtemps. Vous pouvez dire que Debré était d'origine juive, mais ça fait longtemps que les Debré ne sont plus juifs. Mais oui, encore. Oui, ils viennent de sortir un article dans Jérusalem Post.
Alors, pour la petite histoire, je
n'ai pas rencontré
mon cadeau à Cherbourg, mais en Chine.
L'article insiste sur le fait que durant la guerre de Kippour, il y a eu des faits d'armes importants sur le plan naval grâce à ces vedettes de Cherbourg.
Oui, les vedettes de Cherbourg, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, ont pu neutraliser tous les bateaux ennemis. Grâce, on voulait savoir qu'en grande partie, grâce à cette récupération des vedettes de Cherbourg, on a pu s'en sortir pendant la guerre de Kippour. Donc je ne sais pas si vous imaginez le mérite que vous avez. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle Hachem vous a fait deux cadeaux inimaginables que vous ne pouviez même pas imaginer à cette époque-là, l'épouse que vous avez et le retour dans votre vraie maison et votre vie depuis des années, de nombreuses années à Jérusalem. Et j'ai aussi le mérite de vous compter comme élève. Et donc, voilà.
Et des amis.
Voilà. Comment ? Oui, vous devriez écrire un livre là-dessus. Et voilà. On va commencer notre cours, mes amis, parce que on a déjà bien entamé. Et j'ai complètement oublié de vous dire que je dois absolument arrêter mon cours à moins 10. Et tout le monde dehors parce que j'ai un interview à Kalita tout de suite après vous. Donc, je dois foncer à Kalita. Et donc, à moins 10, tout le monde dehors. D'accord ? Donc ça fait qu'il nous reste très 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 peu de temps aujourd'hui malheureusement, 45 mais 45 minutes, on va essayer de faire le maximum. Il y a énormément de choses à dire sur Hanouka. Je pense qu'il y aura ce cours et encore un autre cours qui sera fait Je pense que le prochain cours qui va être fait, vous pourrez le voir sur mon site, bien sûr, sera lié à ce que les maîtres des secrets expliquent, comme quoi la fête de Hanouka est liée à la lumière du Mashiach, la lumière de la délivrance finale. C'est un cours que je vais faire et que je mettrai sur le site certainement en fin de semaine. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une autre notion. Toujours au niveau des explications profondes, nos maîtres nous expliquent que la fiole et tout ce qui permet finalement l'allumage de la flamme, la fiole représente en vérité l'homme authentique. L'homme authentique, comme on va l'expliquer aujourd'hui. Parce que finalement, prenons les choses au départ. Pour avoir cette lumière, il faut commencer par une olive, par des olives, puisque l'huile essentielle, comme je rajoute juste quelque chose de très important, vous savez, on est autorisé d'après la loi à allumer la Hanoukia avec des bougies, mais la vraie mitzvah, c'est avec de l'huile. Et la vraie mitzvah, c'est de l'huile d'olive. Encore une fois, celui qui a décidé de mettre une autre huile ou même des bougies, il accomplit la mitzvah. Mais il faut savoir que si on veut faire la mitzvah vraiment, ce qu'on appelle l'emehadrin, la vraie mitzvah, comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est avec de l'huile d'olive. Donc c'était juste une précision pour que vous compreniez. Donc on est dans le cadre de la véritable mitzvah avec de l'huile d'olive. Et donc, comment ça fonctionne? Au départ, il nous faut des olives. Maintenant, les olives, comment qu'on va obtenir l'huile? Eh bien, en les broyant, en les compressant, pratiquement même en les détruisant. Il ne va plus rester grand-chose de l'olive pour qu'on puisse obtenir l'huile d'olive. Et après, l'huile d'olive. Donc, première étape, on a l'olive. Deuxième étape, on la compresse et on va obtenir l'huile. Troisième étape, il nous faut un réceptacle, la fiole. Quatrième étape, il nous faut une mèche. Et cinquième étape, on l'allume. Alors, à quoi font allusion toutes ces étapes-là? Puisque, au-delà de l'aspect technique, on sait très bien que la Torah, c'est avant tout un message qui concerne l'homme. Et il faut toujours se rappeler que si je ne comprends la Torah qu'au premier niveau, qui est le niveau technique, je n'ai en vérité rien compris du tout. C'est pour ça que le verset lui-même dit « Zot ha-Torah ha-Adam ». Un verset explicite dans la Torah qui nous dit « C'est quoi la Torah? C'est l'homme ». Si tu n'arrives pas à ramener la Torah à l'homme, alors c'est pas la Torah. C'est une religion, mais c'est pas la Torah. Bon, la Torah n'est pas une religion. La Torah est une sagesse qui construit l'homme. Donc chaque message, il faut le ramener à l'homme et comprendre. Et c'est effectivement ce qu'expliquent nos maîtres. Qu'est-ce que signifient toutes ces étapes, l'olive, l'huile, le réceptacle, la mèche et la flamme? À quoi ça fait allusion? Et nos maîtres expliquent, c'est tout simplement les différentes étapes pour arriver à devenir un homme véritable. Un homme qui va devenir une lumière, autant pour lui que pour le monde qui l'entoure. Et qu'est-ce que cela veut dire? Repartons du départ. Au départ, l'homme qui n'est pas encore construit ressemble à une olive. C'est-à-dire qu'il contient en lui des choses inimaginables. Il contient en lui une force qui va pouvoir non seulement l'éclairer, mais éclairer le monde. Mais il ne le sait pas. Parce que quand on voit une olive, comment qu'on peut imaginer que dans cette olive se cache la lumière? Bon, nous, on est tellement habitués qu'on ne se pose plus la question. Mais quand on voit une olive, qui peut imaginer que dans une olive se cache la lumière? D'accord. Je rajouterai juste, mais ça j'en parlerai dans mon prochain cours, c'est que l'huile fait aussi allusion à ce dont j'ai parlé il y a quelques minutes, le prochain cours, qui le lien entre Hanouka et le Mashiach. Vous savez très bien que, qu'est-ce que veut dire le mot Mashiach en hébreu? Loin. Heureusement, vous n'avez pas traduit comme les idiots le Messie. Grâce à Dieu. Voilà. Mashiach ne veut pas dire Messie. Mashiach veut dire loin, l'onction. Comment qu'on dit une onction en hébreu? Meshicha. Donc le Mashiach, c'est celui qui est loin. Et avec quoi on faisait l'onction? Avec l'huile. Ce qui veut dire que l'huile d'olive, uniquement l'huile d'olive. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un lien, non seulement entre l'huile d'olive et la lumière, mais cette lumière fait allusion à la lumière de la délivrance. La lumière du Mashiach. Quand vous voyez une olive, qui peut imaginer que l'olive porte le symbole de la lumière et de la délivrance finale, l'onction du Mashiach? Qui peut imaginer? Alors comment qu'on obtient cette olive? Comment qu'on obtient, pardon, cette huile? Il faut broyer, compresser l'olive. Ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion, mes amis, à un sujet dont on a déjà souvent parlé. Tu ne peux pas devenir un homme authentique dans ce monde sans traverser des difficultés et des épreuves. C'est impossible. C'est impossible. La pire des choses qui puissent arriver à un homme sur terre, c'est la facilité. La facilité. D'accord? Vous vous sentez concerné par ce cours, hein? Grâce à Dieu, bon Hachem, et comme tout le monde. Mais pourquoi, je vous ai déjà apporté cet enseignement, bon, qui est un enseignement, on pourrait dire, utopique, parce que c'est impossible sur Terre, mais nos maîtres, rien que pour nous transmettre le message, nous dit, supposons un homme qui passerait 40 jours de sa vie, rien que 40 jours de sa vie, sans la moindre difficulté, tu peux être sûr que cet homme-là, Hachem le déteste tellement qu'il lui dit, va te faire voir avec tes 40 jours, je ne veux plus te voir. Ça veut dire que, quel est le message qu'on comprend de là, qui est le message qui est à l'absolu contraire de la théologie ou de la théorie ou d'idéologie occidentale? C'est qu'au contraire, on aspire tous à la facilité. On aspire tous à avoir une vie, waouh! D'accord? Nos maîtres nous transmettent que la vie, waouh, c'est ce qui détruit l'homme, c'est ce qui détruit le monde, c'est ce qui détruit les nations, c'est ce qui détruit les peuples. Un homme ne se construit qu'en la difficulté. Je veux juste rajouter une nuance. Quand je dis difficulté, j'ai effectivement ajouté le mot épreuve. Juste un petit instant, cher ami. Mais ça peut être difficulté sans épreuve. Je rajouterai que plus un homme a des épreuves, plus c'est la preuve. L'épreuve est la preuve que Hachem veut faire sortir de lui une lumière fabuleuse. Mais même la difficulté sans l'épreuve, donnons un exemple simple. C'est quand même très dur de construire sa vie de couple. On construit sa vie de couple uniquement avec « mon amour, je t'aime ». Non. Ça, on construit sa relation avec sa copine, avec son copain, « mon amour, je t'aime ». Mais dès que c'est une femme, une épouse et un mari, c'est plus « mon amour, je t'aime ». C'est « on relève les manches et on se met au boulot ». C'est beaucoup plus compliqué. Très bien. On éduque ses enfants dans la facilité? Certainement pas. D'accord. On réussit sa vie professionnelle dans la facilité? Certainement pas. On vit tout simplement dans ce monde dans la facilité? Certainement pas. Donc, de toute façon, on ne peut pas se construire sans difficulté. C'est non impossible. Je rajouterai juste, et je vous laisse à votre question, souvent, les Juifs qui font leur aliyah, qui arrivent en Israël et qui viennent d'Europe, ceux qui viennent d'Amérique n'ont pas de problème, vous allez comprendre pourquoi. Mais ceux qui viennent d'Europe, surtout de France, ont toujours le problème, c'est que quand on arrive ici, c'est le Far West. C'est celui qui tire le premier. D'accord? Mais nous, en France, on a été habitués aux allocations logement, aux allocations ci, aux allocations ça, aux allocations ci, aux allocations ça. Quand on arrive ici, je veux dire, tu prends ton cheval, ton revolver, tu tires. Et si tu tires pas le premier, tu as une balle dans la tête. Parce qu'ici, il n'y a pas de place pour les feignants et les parasites. Ici, c'est tu cours ou tu crèves. C'est pour ça que les Américains n'ont pas ce problème-là, parce qu'ils courent encore plus vite que chez nous. C'est encore plus dur la vie en Amérique que la vie en Israël, ou plus ou moins la même chose. Mais c'est vrai que quand tu viens de France, tu viens d'une société qui t'a tellement pris en charge, quand tu arrives en Israël, tu dis « oh ». Et c'est la raison pour laquelle beaucoup repartent. Parce qu'ils se sont devenus de tels parasites qui sont habitués à être pris en charge, que quand ils arrivent en Israël et qu'ils doivent tout faire par eux-mêmes, ils s'en sortent pas. Mais en vérité, pourquoi Israël fonctionne comme ça? Parce que c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est si tu ne le fais pas toi, personne ne le fera pour toi. Ça, c'est la vraie vie. Personne ne le fera pour toi. C'est ça, la vraie vie. Votre question?
Ma question, en fait, c'était seulement une question réflexe. Par rapport au fait, quand vous dites que la personne qui est dans la facilité n'a pas d'épreuve. La difficulté de la facilité est aussi l'épreuve.
Oui, mais une fois que tu es dans la facilité, tu te laisses vivre, quoi.
Et oui, mais ça ne veut pas dire que la personne est heureuse. Elle a l'épreuve aussi de la facilité et de trouver aussi la difficulté dans la facilité.
Je confirmerai ce que vous dites en disant que qui sont les personnes qui se suicident le plus et qui se droguent le plus sur Terre ?
Ce sont Dafka, les personnes qui sont le plus...
Dafka, le plus les vedettes hollywoodiennes qui réussissent le mieux. Donc c'est bien la preuve que ce qu'il dit est juste. Très souvent, la facilité elle-même devient insupportable.
Devient une épreuve.
Voilà. Et les gens se droguent, les gens se suicident, les gens se débauchent, parce que finalement, dans la nature humaine profonde, on ne supporte pas que tout est trop facile. Alors, bien qu'on cherche la facilité, mais d'un autre côté, dans notre essence, le refuse. Et très souvent, c'est ce qui fait que précisément les gens qui ont le plus d'argent ou qui sont les plus vedettes ou les plus si, sont les plus drogués, les plus débauchés et les plus suicidés, parce que dans leur essence, ils ne supportent pas ce genre de vie. Même s'ils ne sont pas vraiment conscients du pourquoi, finalement, alors qu'ils ont tout pour réussir, pourquoi ils ont besoin de se shooter ou je ne sais quoi. Parce que justement, l'être humain dans son essence refuse une vie trop facile, une vie de vedette finalement. Donc, en tant que peuple, qui est le peuple qui est le modèle de ce que j'explique ? Quel est le peuple qui a été le plus compressé, le plus déchiré, le plus exterminé de tous les peuples ? Nous. Alors maintenant, les Africains aussi, mais pas comme nous, pas autant que nous. C'est vrai que les Africains, vous avez raison. Les Africains, vous avez 100% raison. L'esclavage, etc. Vous avez 100% jusqu'à aujourd'hui l'exploitation de toutes les industries mondiales qui sont en Afrique, etc. C'est vrai, mais malgré tout, pas autant que nous. Pas autant que nous. Ah, il y a peut-être la différence est minime, mais je pense qu'on est encore au sommet. Alors maintenant, je vais vous surprendre, mes amis. D'accord ? On va tous dire ensemble. Merci Hachem. Parce que grâce à ça, grâce au fait que notre olive a été pendant des millénaires compressée, réduite en miettes, qu'est-ce qui est sorti de nous jusqu'à aujourd'hui ? Eh bien la lumière de la Torah. D'accord ? Je suis désolé de vous dire, c'est peut-être prétentieux, d'accord ? Mais qui sont les cours, je vais dire un gros mot, excusez-moi, les cours de religion les plus écoutés dans le monde entier aujourd'hui, c'est les cours des rabbanim juifs. Et quand je dis les plus écoutés, pas par les juifs, par les non-juifs. Puisqu'il y a beaucoup plus de non-juifs que de juifs. Donc forcément. D'accord. Aucun prêtre, aucun curé, aucun imam n'a autant d'audience qu'un maître juif aujourd'hui par Internet. La Torah se répand dans le monde entier, dans toutes les langues. Les nations deviennent folles d'écouter les cours de Torah. Parce que pendant 2000 ans, on leur a fait croire que la Torah n'avait rien à dire. C'était la synagogue aux yeux bandés ou à la bouche bouchée. Et les nations, après 2000 ans, se réveillent et disent « Mais c'est pas possible, on nous a menti !»« Mais c'est quoi cette Torah ? D'où elle sort ?» Et donc, au contraire, alors qu'aujourd'hui les églises sont vides, les synagogues sont pleines, il n'y a plus de place. Ce monde qui nous a tellement fait souffrir, aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les églises. Chez nous, il n'y a pas un Shabbat où quelqu'un arrive en retard, il n'a plus de place dans n'importe quelle synagogue dans le monde entier. Il n'a plus de place s'il ne vient pas à l'heure. Et pas seulement des personnes âgées, des jeunes. Donc après tout ce qu'ils nous ont fait, eh ben merci, continuez. Vous avez fait de nous de l'huile. Non, pas continuer. Mais vous avez fait de nous de l'huile. Vous savez, j'ai déjà expliqué des dizaines de fois, d'accord ? Même si c'est enregistré, j'ai pas peur parce que les antisémites sont tellement honteux que même s'ils entendent ce que je dis, ils le feront pas. S'ils voulaient vraiment nous exterminer, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ? Pendant 100 ans, ils nous fichent la paix. Je vous garantis qu'il n'y a plus un seul juif sur Terre. 100 ans, ficher la paix aux juifs, il n'y a plus un juif sur Terre. Mais eux sont tellement honteux que même si on leur dit, ils le feront pas. Alors tous les 50 ans, tous les 30 ans, tous les 20 ans, ils nous tombent dessus. Merci ! Parce que vous nous aidez à sortir notre huile. C'est pour ça qu'on est la lumière des peuples. Bien sûr. Comprenez ? Donc, je continue. Bekitsour, la première étape pour devenir un homme authentique, c'est de comprendre, mes amis. Arrêtons de nous plaindre de nos difficultés. Arrêtons de nous plaindre de nos épreuves. Arrêtons. Parce que le maître du monde a choisi un peuple pour le broyer pendant toute l'histoire, Parce que ce peuple est censé devenir un jour la lumière des peuples, comme il est dit, or la goyim. C'est vrai au niveau collectif, c'est vrai au niveau individuel. Pourquoi moi je traverse ce que je traverse et pas lui? Parce qu'il semblerait que Hachem sait qu'en toi se cache un potentiel de lumière inimaginable dont tu n'es même pas conscient. Et c'est précisément ces épreuves qui vont te permettre de devenir de l'huile. Deuxième étape, le réceptacle. C'est quoi? Il faut être capable de la contenir, cette huile. Traduit dans un langage français moderne, ça veut dire quoi? Il y a deux types de réactions possibles face à la difficulté, ou pire encore, face à l'épreuve. Je m'écroule, je me révolte, je suis en colère. Mais pourquoi? D'accord? Et j'en vais tout balader. Ça veut dire que l'huile qui sort de moi, elle va tomber par terre, elle va se perdre, on va marcher dessus. Et donc automatiquement, le maître du monde me renvoie une épreuve pour faire sortir de moi de l'huile. Mais cette huile-là, au lieu de la récupérer pour en faire de la lumière, je vais la laisser se perdre et tomber par terre. C'est malheureusement la réaction d'une grande partie d'entre nous qui, quand on ne comprend pas ce qui se cache derrière l'épreuve, on se révolte, on n'accepte pas, on se met en colère. Et tout ce potentiel que le maître du monde voulait dévoiler s'en va, est perdu, tombe par terre. C'est pour ça la deuxième épreuve, le réceptacle. Le réceptacle, c'est rassemble cette huile. Ça veut dire prends conscience que cette épreuve, elle est là pour te permettre de faire sortir de toi quelque chose d'extraordinaire. C'est cette huile. C'est ça le réceptacle. Ça veut dire aie confiance, sois courageux, sois noble, sois digne face à l'épreuve. Ne te mets pas en colère, ne renonce pas. Ne sombre pas dans la tristesse ou le désespoir. Fais ton keli. C'est intéressant. Hein? Quel est le seul peuple qui a su faire un keli de toutes les épreuves qu'il a traversées dans l'histoire? C'est nous. Parce que c'est quoi, je vous l'ai déjà dit mille fois, le mot keli, c'est quoi? Kohen, Lévi, Israël. C'est les rachetévotes, les syllabes de Kohen, Lévi, Israël. Les trois parties du peuple juif. Nous sommes effectivement un véritable keli. Comme je l'ai expliqué, des milliers de fois. En 1945, on ouvre les portes d'Auschwitz. En 1948, on danse dans les rues de Tel Aviv pour fêter la renaissance de l'État d'Israël. 3 ans seulement. Trouvez-moi un seul peuple qui, en 3 ans, aurait été capable de danser. N'importe quel peuple lui aurait fallu plusieurs siècles pour se nettoyer de toute sa colère et de toute sa hargne et de toute sa... Non, 3 ans seulement. 45-48. C'est inimaginable. 90% de ceux qui se sont battus dans la guerre d'indépendance avaient tous un numéro sur le... Incroyable. D'où cette force? Parce qu'il y a le cli. Le cli. Très bien, on a souffert. Très bien, on a été broyé. Très bien, on a été transformé en cendre. Mais cette cendre, elle a fait jaillir de l'huile. Et cette huile, on ne veut pas la perdre. C'est le cli. Et ce cli, on ne le perd pas. Et ce cli, on ne le perd pas. Donc, on prend l'huile, on la met dans le cli. Maintenant, est-ce que l'huile elle-même, elle peut donner de la lumière elle-même? Non, c'est intéressant. De la même manière que l'huile est cachée dans l'olive, la lumière est cachée dans l'huile. À chaque fois, on va un petit peu plus profond. C'est-à-dire que maintenant, on a l'huile, mais d'un autre côté, la lumière est caché dans l'huile. C'est pas la mèche qui, bien sûr, fait la lumière. La mèche ne fait que dévoiler la lumière. Mais la lumière, c'est pas la lumière de la mèche, c'est la lumière de l'huile. Mais il faut une mèche. La mèche, c'est quoi? Alors là aussi, l'enseignement est très très fort. C'est ce qu'on dit dans la prière, d'ailleurs, depuis hier soir, depuis qu'on a commencé Hanouka. Qu'est-ce que voulaient les Grecs? L'ashkicham toratecha. Ils voulaient nous faire oublier la Torah. Pourquoi? Parce que c'est souvent la différence qu'il y a entre deux hommes bien, deux juifs bien, mais un qui n'a pas du tout de Torah et un qui a la Torah. Ils peuvent arriver tous les deux jusqu'au cli. Donnons un exemple. On a un célèbre écrivain français qui a traversé des épreuves extraordinaires, qui est devenu un homme extraordinaire aussi. Comment s'appelait-il? Comment? Non, il a perdu après sa femme dans un incendie. Comment il s'appelle?
Ah oui. Non, pas du tout.
Comment?
Martin Gray.
Martin Gray. Martin Gray. Les camps de concentration, il laisse toute sa famille, il sort, il se remarie, sa femme meurt dans un incendie.
Et les quatre enfants.
Et les quatre enfants aussi. Alors, n'importe qui se serait flingué. N'importe qui se serait... Non. Lui, il est arrivé jusqu'à l'étape du cli. C'est-à-dire, il a su récupérer toute cette souffrance et toute cette huile pour écrire des livres fabuleux. Il est devenu, pour les Français, même non-juifs, vraiment un exemple de quelque chose de hors du commun. C'est vrai, je veux dire, des choses comme ça ne nous arrivent pas à nous. Je sais pas, à mon avis, on se flinguerait. Après Auschwitz, tu perds encore une femme et quatre enfants dans un incendie, mais t'as envie de prendre le bon Dieu, lui tordre le cou, franchement. D'accord, là, j'ai rien dit. Franchement. Donc, bon, ça c'est Martin Gray. Mais d'un autre côté, il lui manquait le pauvre, il lui manquait la mèche. Il n'avait pas de Torah. Et comme il n'avait pas de Torah, il n'a pas pu, d'un autre côté, il a donné une certaine lumière, mais il n'a pas pu, avec les épreuves qu'il a traversées, s'il avait lu en plus la Torah, je pense qu'il serait devenu peut-être la lumière de la génération. Si un homme comme ça, avec le caractère, la force, la puissance qu'il avait, s'il avait eu en même temps la Torah, ça aurait pas seulement été un grand écrivain, à mon avis, ça aurait été un gadol ador. Un des grands de la génération. Un Rabbi de Lubavitch, ou ce que vous voulez. Il aurait pu devenir. Et ça, c'est la mèche. La mèche, c'est la Torah. Ça veut dire que pour pouvoir extraire la lumière qui se cache dans l'huile que tu as su récupérer grâce à tes épreuves, pour que cette épreuve puisse devenir une lumière pour le monde entier, il faut que tu aies la Torah. Cette sagesse qui va te permettre de transformer ton épreuve en lumière, de transformer l'obscurité en lumière. Je dis toujours, et combien de gens se trompent. Écoutez-moi bien. Vous voyez quelqu'un qui est un géant dans la Torah. Vous posez la question, mais comment qu'il a pu devenir si grand dans la Torah? Alors, la grande majorité vont répondre, certainement il devait étudier 20 heures par jour pendant 50 ans, pendant 60 ans, etc. Il a étudié tout le chasse, tous les livres, il a fait tout ça toute sa vie. D'accord? Non. Tu as parlé de la mèche, mais ce n'est pas la mèche qui donne la flamme. Tu ne peux pas être un géant dans la Torah si tu n'as pas été quelqu'un qui a été terriblement éprouvé. D'abord, il faut l'huile. Si tu as l'huile et qu'après tu as des heures et des heures et des heures de Torah, tu as une bonne mèche, tu auras une bonne flamme. Mais c'est pas la mèche, c'est pas la quantité de livres que tu as lus qui font de toi un grand dans la Torah. Et vous pourrez voir que tous les grands maîtres authentiques qu'on a eus dans notre histoire sont tous des gens qui ont traversé des épreuves inimaginables. Quand je vous donne l'exemple, prenons l'exemple de Rabbi Nachman de Breslev, mort à 38 ans après 3 ans de tuberculose, et donc jusqu'à l'âge de 36 ans où il a commencé après à s'occuper de lui-même parce qu'il était gravement malade, il a passé sa vie à enterrer sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Mais il est devenu un des plus grands maîtres de dernière génération. Le Rabbi Lubavitch aussi a traversé des épreuves énormes, ne serait-ce que celle qu'il n'a pas pu avoir d'enfants. Il était poursuivi par la Gestapo pendant la guerre, il se cachait, il était en France, il s'est caché. Il a perdu aussi, il a perdu son père qui a été déporté par les bolcheviks et qui est mort de maladie, de famine dans un camp de déportés. Son père est mort comme ça. Donc son père est mort aussi de manière atroce. Il a aussi un frère et aussi un frère ou une sœur, je crois, qui ont été assassinés par les nazis. Donc ce sont des gens qui ont traversé des choses dures, très dures. En plus, c'est un homme qui, contrairement, on ne le sait pas, mais qui, vers la fin de sa vie, était très très malade et beaucoup de souffrance. Il cachait tout, il ne montrait rien, mais il avait des douleurs terribles dans son corps les dernières années de sa vie. Et je pourrais en citer des dizaines d'autres. Impossible de devenir une lumière uniquement par le fait que tu étudies la Torah jour et nuit, même de la manière la plus sincère. Tu te crées une mèche, mais où est ton huile? L'huile, c'est les épreuves. Donc quand on devrait répondre à la question, mais comment qu'il a pu devenir si grand, la première réponse doit être, combien d'épreuves il a traversées? Ça, c'est la vraie réponse. Donc, la mèche, c'est effectivement la Torah. Et plus tu as de Torah, plus ta mèche, elle est bonne. Vous savez qu'il y a tout un, dans le traité Shabbat, il y a tout un chapitre qui nous dit quelles sont les bonnes mèches et quelles sont les mauvaises mèches. D'accord ? Alors évidemment, celui qui lit la Torah au premier niveau va rester coincé dans l'imbécilité du texte. Cette mèche, elle est bonne, cette mèche, elle n'est pas bonne, cette mèche, elle est bonne, cette mèche, elle n'est pas bonne. Mais non, on s'en fout, nous, on va au magasin, on achète une bonne mèche et qu'est-ce qu'on a besoin d'étudier ça ? D'accord ? Mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ça ? C'est que nos maîtres sont en train de nous décrire quelle est la bonne étude de la Torah, quelle est la mauvaise étude de la Torah. Qu'est-ce que c'est un vrai maître, qu'est-ce que c'est un faux maître. Et tout ça caché derrière les codes de la bonne mèche et de la mauvaise mèche. Donc, première chose, l'épreuve. Deuxième chose, ne pas se décourager dans l'épreuve et se faire un réceptacle pour récupérer l'huile. Après, l'étude de la Torah, ce qu'on fait tous. Chacun à son niveau étudie la Torah. On a compris que sans la Torah, on ne peut pas être des juifs authentiques. Donc, on étudie la Torah. C'est ce qui va faire que l'épreuve va se transformer en lumière. Et après, effectivement, la lumière jaillit. Cette lumière, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va d'abord nous éclairer, nous. Et surtout, elle va éclairer le monde autour de nous. Comment ?
Il manque l'étincelle pour allumer la mèche.
Très bien. Non, je l'ai fait exprès.
Non, parce que c'est pas du dévoilement de la lumière, donc il fallait bien l'éteindre.
Mais d'un autre côté, pour pouvoir amener la lumière, mais c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Pour pouvoir allumer la lumière sur la mèche, il faut venir avec une autre lumière. Eh bien, tout simplement pour te faire comprendre que tu ne peux pas devenir une lumière si tu n'es pas attaché à un maître authentique. Qui est lui-même une lumière qui a été allumée par un autre depuis Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, si quelqu'un dit « je vais étudier la Torah tout seul et je vais devenir une lumière tout seul », c'est impossible. Tu peux devenir un médecin tout seul ? Impossible. D'accord ? Je ne te confierai pas mon corps si tu as appris la médecine sur Internet. Tu as besoin d'apprendre auprès d'un vrai médecin. C'est les dernières années d'études en médecine. Tu rentres dans un hôpital et tu apprends. Aucun métier, tu peux l'apprendre seul. Aucun métier sérieux. Tu as besoin d'une expérience. Eh bien, c'est ça aussi ce qu'on veut t'apprendre. Ça veut dire que pour avoir une bonne mèche qui s'allume, il faut que tu amènes une lumière extérieure qui est un maître authentique. Voilà comment qu'on devient un homme véritable. Je résume, d'accord ? L'épreuve, le réceptacle, la Torah et un maître. Et à ce moment-là, tu deviens une lumière pour le monde. Alors, ce qui veut dire que chacun d'entre nous, et c'est ça le message de Hanouka, chacun d'entre nous a ce potentiel en lui, parce que rares sont ceux, surtout à nos âges, qui n'ont pas déjà traversé de nombreuses épreuves. Donc, l'épreuve, encore une fois, elle n'est pas vraiment entre nos mains, elle nous est imposée. Par contre, à partir de quand commence mon travail, le réceptacle ? La mèche et trouver celui qui va me transmettre la Torah. Ça, c'est mon travail à moi. Et si j'ai ces trois choses-là, je peux devenir une lumière. Alors maintenant, si c'est ça le message de Hanouka, essayons de comprendre quelque chose encore de plus profond. Combien de jours on allume les bougies à Hanouka ?
8
jours. Le chiffre 8, vous pensez à quoi ? J'ai expliqué une fois. Au-dessus de la nature. Puisqu'on sait que le monde a été créé en 7 jours, le chiffre 7, d'après les décodages de la Torah, fait allusion à la nature. Le chiffre 8 est le premier des 3 autres chiffres, le 8, le 9, le 10, quand il y a 10 attributs divins. Le chiffre 8 est le premier des attributs divins du bas vers le haut, qui est déjà au-dessus de la nature. Ce qui veut dire que, ici la Torah nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Pour pouvoir, malgré les épreuves que tu traverses, devenir une lumière qui éclaire le monde, tu as besoin de te connecter à quelque chose qui est au-dessus de la nature, au-dessus du monde. Et là, je vais expliquer ce que cela signifie. Parce que d'après les lois de la nature, et c'est malheureusement le cas de la majorité, malheureusement des hommes et des femmes sur Terre, qui restent au niveau de la nature, quand tu es au niveau de la nature, tu ne peux pas devenir une lumière. C'est pas possible. Parce qu'au niveau de la nature, quand tu prends un coup, t'as mal. Comment tu peux transformer un coup en joie ? c'est difficile, c'est impossible d'après la nature. Donc il faut que tu dévoiles en toi une force qui est au-dessus de la nature, le chiffre 8 qui correspond, comme on le sait, à l'attribut de la Bina. Et je vais expliquer ce que c'est. Quand tu dévoiles en toi, parce qu'on sait que l'âme comporte les 10 attributs divins, les 10 spirotes, et pour pouvoir donc avoir cette lumière, comme on apprend que cette lumière est pendant la fête de Hanouka, c'est la seule fête où on allume des lumières, c'est pas vrai ce que j'ai dit, quand c'est qu'on allume encore des lumières ? Le Shabbat, on va en parler. Mais en tout cas, la fête de la lumière, Shabbat n'est pas la fête de la lumière, même si on allume des bougies. La fête de la lumière, c'est Hanouka, et elle dure 8 jours, pour bien nous faire comprendre que la véritable lumière est liée au chiffre 8. Et comment qu'on arrive, mes amis, à cette surnature ? Comment qu'on arrive à dévoiler cette force surnaturelle en nous qui va nous permettre de transformer l'épreuve en lumière ? Alors on a dit, c'est le 8e, c'est le chiffre 8 qui est la Bina. Je vous ai déjà expliqué que comment nos maîtres décrivent le caractère de la Bina, les Avin d'Avar, Mitor d'Avar. Ça veut dire comprendre l'intériorité des choses. Et mes amis, ici, le principe, il est fondamental. Dans chaque chose qui nous arrive, dans chaque chose que l'on traverse, si on tombe, c'est parce qu'on est resté coincé dans l'aspect extérieur du problème. On n'est pas rentré à l'intérieur. Parce que sachez que dans chaque chose de difficile que l'on traverse, se cache à l'intérieur quelque chose de fabuleux. Mais le problème, c'est qu'on est trop souvent prisonnier de l'aspect extérieur des choses, qui nous fait mal, qui nous rend triste, qui nous met en colère. Et on n'a pas l'envie, on n'a pas la volonté, on n'a pas la force de rentrer à l'intérieur. La vine d'avar mi tor d'avar, de comprendre ce qui se cache dans l'intériorité du problème. Mais si tu rentres dans l'intériorité du problème, tu vas comprendre des choses extraordinaires. Je vais donner quelques exemples que j'ai déjà donnés dans mes cours. D'accord ? Avec mon humour à deux sous. Très bien, c'est l'humour ashkenaz, il vaut ce qu'il vaut. Non, bah, c'est l'humour ashkenaz, excusez-moi. Hein. Non ? Ah, il est bien l'humour ashkenaz ?
Les plus grands humoristes sont des ashkenaz.
Ah ouais ?
Bah oui.
Ah bon, alors bon, l'humour ashkenaz, très bien. Très bien. Non, non, je viens un bel humour ashkenaz, très bien. Très bien. Très bien. Alors, très bien. Dites-moi, j'avais déjà expliqué, quel a été le premier Herzl de notre histoire ? Comment s'appelait le premier Herzl de notre histoire ? Je ne parle pas de Herzl, je ne dirais pas le premier Herzl de notre histoire. Comment ? Le premier Herzl, non, on est en galoute, etc. Et tout d'un coup vient quelqu'un qui lance un projet de retour sur la terre d'Israël. Quel est le premier Herzl de notre histoire ?
Moïse.
Mais non, c'était une Espagnole, elle s'appelait Isabelle, en plus elle était catholique. Isabelle la catholique. Mais évidemment, c'est grâce à l'Inquisition qu'on a commencé à revenir sur notre terre et on a reconstruit la première ville, c'était Tzfat. Merci Isabelle, merci, merci. Merci Isabelle, grâce à toi, on a reconstruit la ville de Tzfat, on est revenu sur notre terre. Mais oui, sans l'Inquisition, les Juifs en Espagne, ils vivaient comme aujourd'hui en Floride, à Miami. Hein. Oh là là, heureux comme un Juif à Miami. Hein. Ça, je peux vous dire. Hein. On avait du fric, on était ministre, on était médecin, on était de vrais Juifs en galoute, quoi. Hachem, je vais vous faire un cadeau extraordinaire, je vais vous ramener sur votre terre. Je vais vous envoyer un petit Herzl, Isabelle la catholique. Elle a fichu tous les Juifs dehors et une grande partie a dit, bon, ben, si déjà on est dehors, ben, qu'on retourne chez nous. Et c'est comme ça qu'a recommencé l'Alia il y a 500 ans et qui ne s'est pratiquement jamais interrompu avec des hauts et des bas. L'Alia n'a pas commencé avec Herzl. L'Alia a commencé avec Isabelle la catholique. Jusqu'à l'Inquisition, personne ne montait en Israël. De temps en temps, un ou deux ou trois par an. Mais là, ce sont des masses entières. D'accord ? Et à la fin du 19e siècle, qui a été le nouvel Herzl ? Qui a amené à la création à toutes les coopératives en Israël? Eh ben, les pogroms! Vive Kishinev! Vive Odessa! Mais qui c'est qui a ramené des centaines de milliers de juifs en Israël? Mais les Russes! Pendant les pogroms! Je sais bien. Et je vais dire maintenant quelque chose de très grave. Surtout que mes grands-parents et maternels et paternels sont morts à Auschwitz. Alors j'ai quand même le droit de le dire, je vais quand même dire quelque chose de terrible, d'accord ? Et d'une certaine manière, grâce à qui on a créé l'État d'Israël en 48 ? Grâce à la pire ordure qu'il crève tous les jours, chaque seconde qu'il crève et qu'il crève et qu'il crève, Hitler. Parce que sans le sale coup qu'il nous a fait, jamais les nations auraient signé la création de l'État d'Israël. On le sait tous. Allez, ne jouons pas la comédie. Jamais les nations auraient signé la création de l'État d'Israël. Seulement, elles en avaient tellement sur la patate qu'il fallait se racheter pour avoir été tous complots de la Shoah. Et ils ont signé la création de l'État d'Israël. Et en se disant, les Arabes termineront le travail. Mais ils l'ont signé quand même. D'accord. On veut dire que c'était un complot pour que les Arabes terminent le travail que ce crétin d'Hitler n'a pas été fichu de terminer. Et aujourd'hui, ils regressent tout parce qu'ils regressent tout parce qu'ils se rendent compte que finalement les Arabes n'ont pas terminé le travail. Mais quoi qu'il en soit, sans Hitler, on serait encore en train de manger du tchoulent en Russie ou de la tafina à Casablanca. Excuse-moi. Et c'est sûr et certain. Vous imaginez encore en train de bouffer de la tafina à Casablanca. Non mais franchement. Aujourd'hui, bon, on a des falafels, on a des koratembel. On vit dans le pays où le son va plus vite que la lumière. Pourquoi le son va plus vite que la lumière ? Parce qu'il te klaxonne avant que le feu y passe à vert. Alors que le son va plus vite que la lumière.
Mais alors lutter contre l'antisémitisme, c'est pas bon.
C'est pour ça que j'ai dit les antisémitistes sont des ou. Parce que s'ils vraiment voulaient nous détruire, ils nous foutent la paix pendant un siècle.
Donc c'est bien alors qu'il y en ait.
Comment ?
C'est bien qu'il y en ait.
C'est bien et c'est pas bien. C'est bien à moyen long terme parce que grâce à eux, on reste juifs. Oui. C'est pas bien parce que sur le moment, ça nous fait souffrir. Oui. Mais en vérité, les antisémites sont là pour qu'on puisse rester juifs. Parce que nous, on sait très bien que si tout le monde entier se transformait en Miami ou en Los Angeles, même pas un siècle, il n'y a plus un juif sur Terre. On le sait tous. 80% de mariages mixtes et d'assimilation en Amérique aujourd'hui. On le sait tous. Donc qui c'est qui nous a sauvés pendant toute l'histoire ? Ben les antisémites. Bravo. Ben oui, mais c'est horriblement vrai. C'est horriblement vrai. On ne s'est pas sauvés tout seul. D'accord ? Attendez. Mettez un juif dans le 16e pendant 50 ans. Après vous le cherchez à la loupe où il est. C'est pas possible. Impossible. 50 ans dans le 16e, sans la moindre histoire, il disparaît. Ben oui. Donc, encore une fois, c'est ça ce que signifie rechercher l'intériorité à l'intérieur d'eux. Alors, évidemment que l'inquisition, sur le moment, ça a été... Je vais pas dire de gros mots. Quel gros mot qu'on pourra dire, c'est encore une honte par rapport à ce que ça a été. Évidemment que les pogroms, c'était... atroce, horrible, qui ose même comparer tout ce que je viens de dire à la Shoah. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit qu'à chaque fois dans l'histoire qu'une catastrophe nous est arrivée, elle nous a fait avancer vers la délivrance finale. Il n'y a pas une exception à la règle. Il n'y a pas une exception à la règle, il n'y a pas une fois dans l'histoire où les nations ne nous sont pas tombées dessus, ça ne nous a pas fait avancer des milliers et des milliers de kilomètres vers la délivrance finale. Et plus l'épreuve était grande, et plus on a fait un bond inimaginable en avance vers la délivrance finale. Il n'y a pas une exception. Qu'est-ce qu'on comprend de cet exemple malheureusement affreux et difficile à accepter ? C'est que dans chaque catastrophe se cache le secret de la bina, d'avar mitor d'avar, se cache une lumière inimaginable. Si on le comprend au niveau de l'histoire, on doit le comprendre aussi au niveau de notre vie individuelle. Cherche. Je ne parle pas cherche sur le plan intellectuel. Je ne parle pas cherche sur le plan pragmatique. Parce que ce n'est pas un problème de calcul mathématique. Tiens, je voudrais comprendre ce qui se passe derrière l'épreuve que je traverse. Non, ce n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est plus au niveau de l'intuition de l'âme, de la connexion, du surnaturel que... Je ne me laisserai pas démolir par l'extériorité du problème. Je suis sûr que si le maître du monde me fait traverser ce que je traverse, forcément se cache un trésor à l'intérieur de cette obscurité. Et je veux me connecter à ce trésor. Et si je me connecte à ce trésor, à ce moment-là, je vais me rendre compte que, effectivement, c'est ça, être un homme surnaturel. Quand je parle d'être un homme surnaturel, mes amis, je ne parle pas d'être un Superman. Être un homme surnaturel, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe lequel d'entre nous. Comprendre une fois pour toutes que la réalité est composée d'une extériorité et d'une intériorité. Et prendre sur soi une fois pour toutes de refuser d'interpréter au niveau de l'extériorité. Il y a forcément un secret qui se cache dans ce qui m'arrive. Je ne le comprendrai peut-être pas d'une manière logique, mais j'ai une confiance absolue dans le fait que si ça m'arrive, c'est forcément pour mon bien. Vous savez comment Rabbi Akiva est devenu Rabbi Akiva ? J'ai déjà expliqué. Comment qu'il est devenu le plus grand maître de tous les temps alors qu'il a commencé à étudier la Torah à l'âge de 40 ans et que lui-même était le fils d'un converti ? Donc, il était tout fraîchement juif. Et jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'avait aucune notion de Torah et il est devenu le plus grand maître de tous les temps. Parce que pendant 14 ans, il avait un maître qui s'appelait comment ?
Yam Zuletova.
Non, c'est sa femme, il l'a eu toute sa vie. Non. Ish Gamzu. Gamzuletova. Le premier grand maître et le vrai maître de Rabbi Akiva, celui qui l'a le plus impressionné, s'appelait Ish Gamzu, celui qui dit tout le temps Gamzu Letova.
C'est Nahum.
Nahum. Ish Gamzu. Gamzu Letova. C'est lui qui l'a construit. Parce qu'il lui a transmis ce message. Parce que lui, quand il disait Gamzu Letova, la Gemara nous raconte des histoires sur, c'était pas, comme nous, Bezrat Hashem. Non, c'est pas ça. C'était pas un religieux, lui. C'était un homme, un vrai. Quand il disait Gamzu Letova, il était dans la miel jusque-là. Et il continuait à crier Gamzu Letova. Et tout d'un coup, la miel se transformait en parfum. C'est ce que la Gemara nous raconte. Il avait une telle conviction que Gamzu Letova qu'il arrivait à transformer chaque épreuve de folie en lumière incroyable. Et il le vivait. Et c'est ce qu'il a transmis à Rabbi Akiva. Et c'est ce qui a fait, comment ? Oui, il faut que j'y aille. Et c'est ce qui a fait de Rabbi Akiva le plus grand de tous. Parce que Dieu sait que Rabbi Akiva, il en a traversé dans sa vie. Rien que sa mort. Mais il a vécu Chorban Bet Amigdash, l'exil. Il a vécu la défaite de Bétar. Il a eu lui-même des souffrances inimaginables.
C'est presque une éloge à la souffrance que vous êtes en train de
non.
faire.
Non. La nuance, elle est sur un cheveu. Vous savez, nos maîtres disent dans le Talmud, cher ami, que la distance entre, je le dis en français, excusez-moi les gros mots, entre l'enfer et le paradis, c'est qu'il y a la chuta sahara, l'épaisseur d'un cheveu. Ça veut dire que la vérité s'apprécie à l'épaisseur d'un cheveu. Et des fois, tu dévis d'une épaisseur de cheveu, tu es déjà dans le mensonge. Je ne dis pas que c'est, même si j'ai un petit peu exagéré dans mes blagues à dessous, je ne suis pas en train de faire l'éloge de la souffrance. Je suis tout simplement en train de dire qu'on ne peut pas éviter la souffrance, ce n'est pas nous qui la choisissons. D'ailleurs, nos maîtres vont dans votre sens. Nos maîtres disent qu'il est interdit de demander à Hachem une épreuve. Il est interdit. Il y en a une fois dans sa vie, qui a demandé à Hachem. C'était David. Parce que dans la prière, on dit « Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov ». Le Dieu d'Abraham, c'est Yaakov. David a dit, pourquoi on ne dit pas le Dieu de David ? Alors Hachem lui a dit, mais eux, ils ont été éprouvés, ils ont réussi. Hachem lui a dit, mais éprouve-moi, je réussirai moi aussi. Et il lui a envoyé Bathsheba, il est tombé. De là, nos maîtres apprennent que tu ne demandes jamais une épreuve. Mais ce que je dis, c'est de toute façon, on n'a pas besoin de les demander, grâce à Dieu, elles viennent toutes seules. Voilà. Et une fois qu'elles sont là, on doit comprendre que Gamzu Letova, que tout est pour le bien. Mes amis, comme je vous l'ai dit, je suis obligé d'arrêter le cours plus tôt aujourd'hui. Je vous demande. Oui.
4 jours sans épreuve. Posez-vous la question.
Et Dieu sait que lui en a eu. Rien que comment qu'il a terminé sa vie, etc. Je veux dire, c'est pour ça que c'était un très grand homme. Voilà. Je vous demande de faire très vite ce que je dois vite fermer. Il faut que je parte de toute urgence. Voilà.